Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron reprend le micro pour donner le coup d'envoi de la concertation citoyenne sur les retraites. Il doit échanger en fin d'après-midi avec 500 Français. Le président affrontera la colère sociale, la détresse aussi de certains gilets jaunes dont les préoccupations n'ont pas disparu.
Le syndicat de police Alliance appelle à se rassembler devant le siège de la France Insoumise ce matin. Jean-Luc Mélenchon avait qualifié les forces de l'ordre de barbares. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à vouloir manifester, vous le comprendrez.
Dans cette édition, nous irons en Italie, où la Cour constitutionnelle valide le suicide assisté sous certaines conditions assez strictes.
Et puis à Bruxelles, en cette journée européenne des langues, l'anglais s'impose dans les couloirs de la Commission au détriment notamment de la langue française.
Quand les partis politiques font le tri parmi les journalistes. Voici le titre du billet politique ce matin. Frédéric Saïs nous rejoindra après ce journal. Mais d'abord, faisons un point sur l'incendie qui touche depuis 3 heures ce matin un site classé Seveso à Rouen. Un feu important et impressionnant dans une usine qui fabrique des additifs pour lubrifiants. La préfecture indique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de victimes, mais elle a décidé de confiner la population dans un périmètre de 500 mètres autour de l'entreprise. Tous les établissements scolaires de l'agglomération de Rouen seront fermés aujourd'hui. Voici ce que dit ce matin le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand.
Nous avons décidé la fermeture des établissements scolaires. Donc l'inspection d'académie et les maires concernés sont en train d'être contactés pour que les écoles, les collèges et les lycées ne soient pas ouverts aujourd'hui, toujours avec cette même idée d'éviter les déplacements inutiles et de permettre aux services de secours le plus rapidement possible de maîtriser cet incendie qui, vous l'avez compris, était un incendie très très violent et très spectaculaire.
Voilà, les établissements scolaires seront donc fermés dans 12 communes à Rouen et autour de Rouen. Par ailleurs, une alarme a été déclenchée il y a un quart d'heure maintenant dans la ville pour prévenir les habitants et les réveiller si besoin. Le préfet de Seine-Maritime précise également que les premières analyses ne montrent pas de toxicité aiguë sur les principales molécules dans la fumée qui se dégage actuellement de l'usine. Des pompiers du département voisin de l'Eure et des moyens nationaux ont été appelés en renfort. Quand Emmanuel Macron relance sa formule du grand débat pour convaincre les Français. Après les gilets jaunes, il veut maintenant tenter de calmer les sceptiques face à la réforme des retraites. C'est dans l'Aveyron à Rodez que le premier des 5 échanges aura lieu à partir de 18h30 cet après-midi, aux côtés d'Emmanuel Macron donc et du ministre chargé de la réforme, Jean-Paul Delevoye. Et pour cela, Emmanuel Macron reprendra les codes de ses réunions du printemps dernier, Rosalie Lafarge.
Le président debout, micro à la main, au milieu d'une salle pleine à craquer, les images de ce soir risquent de rappeler des souvenirs. Emmanuel Macron a pris goût à l'exercice face au maire, il se teste maintenant face à des citoyens. 500 personnes, des lecteurs de 3 quotidiens régionaux, La Dépêche, Centre Presse et Midi Libre qui se sont inscrits pour en être. Prévu pour débuter à 18h30, l'échange devrait durer au moins 3 heures, précise l'Élysée, mais il pourrait, comme au moment du grand débat, se prolonger bien au-delà. En tout cas, le choix du lieu n'a pas été laissé au hasard. L'Aveyron est un département essentiellement rural, tant mieux pour un débat qui se veut ancré dans les territoires. Le tiers de la population y est âgée de plus de 60 ans, plutôt pertinent pour aborder le sujet des retraites. Et puis Rodez est un terrain ami pour le président. Le maire, Christian Tessèdre, fait partie des premiers à avoir soutenu En Marche en 2016. Emmanuel Macron va d'ailleurs lui remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur tout à l'heure. Mais terrain ami ne veut pas dire terrain conquis. Plusieurs syndicats et partis de gauche appellent les opposants à la réforme des retraites à se rassembler à Rodez à 17h30. Une heure avant le retour au grand débat du président.
Des opposants déjà mobilisés et des salariés déjà très remontés. En marge de ce débat, les représentants de la société aveyronnaise de métallurgie rencontreront le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Près de 250 postes vont y être supprimés sur ce site qui travaille avec des constructeurs automobiles. Ils veulent donc interpeller le gouvernement sur sa politique qui se fait, disent-ils, au détriment du diesel, comme un air de gilet jaune. Sébastien Lallier est délégué CGT de la SAM.
Aujourd'hui, on sait très bien que le marché de l'automobile est compliqué. Après, on nous a fait cette annonce-là, mais sans explication et sans données élémentaires. Le climat se détériore, que ce soit les habitants ou les salariés, je pense que c'est un peu le coup de massue sur la tête, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans le bassin de vie où on est 250 licenciements à la SAM, ça engendrera de grosses difficultés pour d'autres entreprises, pour d'autres familles ou pour d'autres sociétés du bassin. La justification des 250 licenciements, aujourd'hui, on n'a aucune explication. Depuis lundi 5h, l'entreprise est bloquée, mais aucun responsable de l'entreprise ou du groupe ne nous a téléphoné pour nous donner aucun autre élément.
Des propos recueillis par Mathieu Ferry de France Bleu Occitanie pour France Culture. Eux n'ont historiquement pas l'habitude de manifester publiquement leur mécontentement. Les policiers vont pourtant se mobiliser ce matin à l'appel du syndicat Alliance devant le siège de la France Insoumise. Ils dénoncent les propos du responsable du parti, Jean-Luc Mélenchon, qui les a qualifiés de barbares lors de la manifestation contre la réforme des retraites avant-hier. Au-delà de cette polémique, cette affaire révèle surtout un malaise au sein de la police française. C'est l'analyse au téléphone de Stéphane Robert du professeur de criminologie, Alain Bauer.
L'exaspération est de plus en plus présente. Il y a d'ailleurs une manifestation dans quelques jours dite de la colère, une manifestation intersyndicale assez rare dans les milieux policiers. Il y a de plus en plus de réactions à des insultes, agressions, colibets. Donc il y a une hypersensibilité sur cette question qui n'est en rien une surprise. Alors l'appel à manifester est plus étonnant. D'abord parce que même sur des sujets beaucoup plus graves en termes d'insultes verbales et d'agressions, les organisations syndicales de la police en étaient restées aux poursuites, à la demande de poursuites par le ministère de l'Intérieur, à l'invective éventuellement, mais pas à la manifestation, qui pose toujours le problème du risque de la confrontation physique, du débordement. Et ça, c'est plutôt nouveau, et je crois que c'est à la hauteur de cette exaspération cumulative qui existe dans les milieux policiers. La police est une maison qui va mal, qui connaît aujourd'hui plusieurs crises, une crise sociale, une crise de reconnaissance, une crise de violence, une crise de suicide. Et le cumul de ces phénomènes amène une fébrilité plus grande, une sensibilité plus grande et un niveau de réaction inédit. Je parle là sur la question d'une manifestation devant le siège d'une organisation politique.
Et parallèlement à cette manifestation prévue ce matin, le syndicat de police Alliance demandait à Christophe Castaner de déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Le ministre de l'Intérieur annonce à l'instant qu'il va signaler ses propos à la justice. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Les parents et les sœurs d'Inès Madani ont raconté hier à la cour d'assises spéciale de Paris leur impuissance quand celle-ci a sombré dans la radicalisation au point d'avoir tenté de faire exploser la voiture familiale près de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Son procès avec quatre autres jeunes femmes se tient cette semaine. Antoine Maret le suit pour nous. Il a notamment assisté au témoignage du père d'Inès Madani. Il raconte.
Patrick Madani a 52 ans, il est chauffeur de bus. Le président lui explique que compte tenu du lien de parenté avec l'accusé, il n'est pas tenu de prêter serment. L'homme a encore du mal à comprendre le parcours de sa fille. Sans doute une série de mauvaises rencontres, la crise de l'adolescence, un mal-être, même si on va dire que je minimise les faits. Il décrit une enfant joyeuse, très joueuse, le lien privilégié qu'ils partagent ensemble jusqu'à l'adolescence, et en particulier jusqu'à la mort de sa grand-mère. Quelques jours avant sa disparition, elle se dispute. C'est resté là-dessus, regrette Patrick Madani. Ça l'a marqué, elle a eu l'impression d'avoir fait une faute irréparable. Dans le box des accusés, pour la première fois depuis le début du procès, Inès Madani ne peut retenir ses larmes. Une disparition et une rencontre déterminantes. Anissa, qui part en Syrie en 2015, l'adolescente et la femme se lient d'amitié. On peut dire après coup que ça a été un tournant, reconnaît le père, mais je ne connaissais pas les relations de ma fille. À l'avocat général qui l'interroge sur le désir d'Inès Madani de partir mourir, d'abandonner sa famille, il répond « c'est un constat d'échec. Les parents qui sont dans ce cas-là se torturent l'esprit pour savoir où ils ont merdé ».
C'était Antoine Maret. Le Sénat, à majorité de droite, a voté hier soir l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires en France. Interdiction de détruire par exemple des vêtements ou des produits d'hygiène. C'est une première mondiale, selon la ministre Brune Poirson, qui précise que cela représente chaque année près d'un milliard d'euros de produits. Le commerce encore et la grande distribution, dont les pratiques doivent être mieux encadrées, quitte à les sanctionner. Voici la conclusion de députés qui ont travaillé sur le sujet pendant 6 mois. Il propose notamment de réformer le fonctionnement des centrales de services proposées par les distributeurs. Ces centrales, basées par exemple à Zurich, Genève ou Bruxelles, proposent des données commerciales à leurs fournisseurs. Grégory Besson-Moreau, le rapporteur de cette commission d'enquête, s'en explique.
Les négociations à l'international et les centrales de services, c'est tout bonnement, pour certaines prestations, de l'abus. Et c'est une façon d'aller récupérer de l'argent et des marges arrière à un niveau international qui passe complètement sous le radar de la fiscalité française et du contrôle français. Et là, on doit absolument, au niveau européen, prendre conscience de cette dérive de la grande distribution. Les mots sont forts, mais c'est une véritable dérive. On doit mettre les holà et on doit avoir de la transparence. Quand on facture un industriel, on doit lui dire exactement ce pourquoi il a été facturé. Ce que l'on a découvert, c'est qu'en fait, les centrales de service, vous êtes invité à participer, je dis bien le mot invité, libre à celui de ne pas accepter cette invitation, mais généralement, s'ils refusent cette invitation, ils sont tout simplement déréférencés ou de temps en temps on arrête certaines commandes. Donc il est plutôt raisonnable d'accepter l'invitation. Et une fois que vous êtes invité, on vous demande votre chiffre d'affaires, on vous dit voilà, pour ce chiffre d'affaires, on fera des réunions et tu auras des données, exploitables ou non d'ailleurs, je ne sais pas. Et en contrepartie, eh bien, nous avons besoin de 1, 2, 3 ou 4% de ton chiffre d'affaires. Donc je ne dis pas que ces prestations sont fausses, je dis juste qu'elles peuvent paraître peut-être abusives et surtout elles manquent clairement de transparence.
Un des propos recueillis par Vianney Smirowski.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La Cour constitutionnelle en Italie rend possible le suicide assisté sous condition.
Oui, l'aide au suicide ne sera plus systématiquement condamnée, en tout cas quand la loi sera votée. Mais cette décision de la Cour constitutionnelle italienne est déjà historique pour certaines associations. Voici les explications de notre correspondant Bruce de Galzin.
Le suicide assisté n'est plus illégal en Italie sous certaines conditions. C'est une victoire pour les défenseurs de cette cause, comme l'avocate Filomena Gallo, qui a défendu les cas emblématiques depuis des années.
Aujourd'hui, leur témoignage, leur sacrifice donne une liberté à tous les Italiens qui, s'ils veulent décider de mettre fin à leurs propres souffrances avec une injection létale, s'ils ont une maladie incurable, douloureuse, et s'ils sont capables de prendre leurs propres décisions, eh bien ces personnes ne seront plus seules.
Les conditions sont donc strictes, une souffrance intolérable, une maladie irréversible pour un patient qui doit être sous assistance et traitements vitaux est capable de choisir de mourir de manière libre et éclairée. Cette décision de la Cour constitutionnelle doit maintenant franchir un autre pas, celui de la loi. Les parlementaires sont mis devant leurs responsabilités car la Cour leur demande de légiférer. Déjà, les opposants se font entendre. Matteo Salvini a dénoncé un suicide d'État. Les catholiques sont appelés à se mobiliser pour une bataille devant le Parlement.
C'est désormais une certitude. Donald Trump a bien demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur Joe Biden, son principal rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Le département américain de la justice a révélé hier le contenu du dialogue téléphonique, confortant un peu plus les démocrates dans leur démarche. Avant-hier, je vous le rappelle, ils avaient enclenché une procédure de destitution à l'encontre du président américain. Lui se défend de toute irrégularité. Le président ukrainien également affirmait hier soir que ce coup de téléphone était tout à fait normal. Et revoilà les députés britanniques au Parlement de Londres. La session a repris hier sur décision de la Cour suprême qui avait jugé illégale la suspension décidée par Boris Johnson. Le chef du gouvernement a donc dû affronter une nouvelle fois l'opposition à un peu plus d'un mois d'un Brexit programmé, toujours sans accord avec l'Union européenne. Boris Johnson n'a parlé que de ça hier.
C'est le moment pour ce Parlement de prendre ses responsabilités. Nous avons décidé d'organiser ce référendum. Nous avons promis maintes fois de le respecter. Je pense que les citoyens de ce pays en ont assez. Ce Parlement doit rester à l'écart et laisser le gouvernement délivrer le Brexit ou provoquer une motion de censure et enfin faire face au jugement des électeurs.
Réponse de l'opposant travailliste Jeremy Corbyn. Si vous souhaitez des élections anticipées, demandez avant cela un report du Brexit. Le feuilleton continue. Et alors que le Royaume-Uni pourrait sortir de l'Union dans les semaines, les mois ou les années qui viennent, un collectif de fonctionnaires européens dénonce le monolinguisme anglais qui règne dans les institutions. Ils veulent se faire entendre en cette journée européenne des langues et ils regrettent notamment la disparition progressive du français à la Commission européenne. Angélique Bois.
Le dernier texte juridique en français avec lequel j'ai travaillé date de 2015, raconte une fonctionnaire de la Commission. Il y a 20 ans, 40% des documents produits par l'institution étaient encore dans cette langue, contre moins de 3% aujourd'hui. Une pratique que dénonce l'Association de la presse internationale dont est membre le journaliste italien Lorenzo Consoli.
La façon de s'exprimer en français n'est pas la même qu'en anglais. On exprime une culture différente, même des valeurs différentes. Quand on regarde le langage du management, le langage langage des banques, de la finance, qui est anglais, anglo-saxon, on voit très bien là qu'il y a comme un mur culturel qui ne fait pas passer d'autres cultures. C'est terrible. Ce sont deux approches différentes et donc c'est bien de les garder tous les deux.
Nehru Zamzaoui est interprète au Parlement européen où les débats sont traduits en 24 langues. Pour les élus, c'est une nécessité démocratique, explique-t-elle.
On arrive de plus en plus à une sorte de jargon anglais, mais en réalité, on se rend compte que lorsqu'ils entrent vraiment dans des négociations plus délicates ou des discussions politiques plus pointues, là, ils préfèrent passer à leur langue maternelle. Ça leur permet vraiment d'entrer dans la nuance et de dire vraiment ce qu'ils veulent dire sans se contenter de ce qu'ils peuvent dire.
À l'heure où les Britanniques s'apprêtent à quitter l'Union, cet usage trop répandu de l'anglais conduit à un nivellement vers le bas, dénoncent les auteurs de la pétition, en soulignant que cette langue ne sera plus parlée que par une minorité en Irlande et à Malte.
C'était Angélique Bouin. Je vous rappelle l'information de la nuit, cet incendie à Rouen sur un site classé Céveso. La préfecture demande aux habitants de toute l'agglomération, c'est-à-dire dans 12 communes, d'éviter les déplacements non indispensables aujourd'hui et surtout de rester à l'écoute des radios pour suivre ses conseils. La météo de ce jeudi, avec un ciel qui restera couvert et pluvieux seulement sur le nord de la France, avec un large soleil au sud. Dans la matinée, il fera 16 degrés à Besançon, 17 à Lille et Paris, 19 degrés à Bordeaux, 23 à Marseille, Guillaume.
Merci Clara Le Coq-Réal, il est 8h16.